Eh bien, bonjour à tous, bienvenue à cette assemblée un petit peu particulière. Je vous parle depuis la maison Lançon, rue de Courvency à Reims, où nous nous réunissons d'habitude et où je viens avec François Bernal, le président de Lançon, de faire le tour des nouvelles accueils que nous aurions dû vous présenter aujourd'hui. Eh bien, ce sera pour une autre fois. Avant de commencer cette assemblée, je voudrais avoir une pensée pour tous ceux parmi vos familles, vous-même et parmi nos collaborateurs qui ont pu être touchés par le virus. Nous avons fort heureusement à ce jour malgré quelques cas dont certains graves, nous n'avons eu aucune issue fatale, mais Dieu merci. Voilà, donc cette assemblée va se passer de façon pas très sympathique, pas très agréable. Enfin, là, je suis dans une petite salle, je suis juste avec François Bernal. Les autres présidents vont tous intervenir, chacun leur tour, tout à l'heure, et ça la rendra un peu plus vivante que si c'est moi qui faisais juste un long monologue. Alors, en principe, vous devriez suivre sur vos écrans, si ça veut bien marcher, un certain nombre de slides qui vont illustrer mon propos. Mais je crois que nous devons déjà peut-être commencer par ouvrir officiellement cette séquence en précisant que le quorum est atteint parce que nous avons 89,86% des actions qui sont représentées. Et donc, le quorum est largement là. Et nous désignons un bureau. En général, traditionnellement, ce sont mes associés cofondateurs du groupe, Philippe Béjot et Yvelyne Boisel, qui sont désignés comme scrutateurs. Et Nicolas Rouleau-Dugage désigné comme secrétaire si personne n'y voit d'inconvénient. Je crois que c'est la solution la plus simple et la plus rapide. Et donc, nous pouvons commencer. L'ordre du jour, je vous le rappelle, nous avons compétence de la GO, c'est essentiellement l'approbation des comptes, l'affectation des résultats, les rapports des CAC, commissaires aux comptes, la fixation des rémunérations et les mandats d'administrateurs. Et ensuite, il y a aussi les points qui relèvent de la GE, l'autorisation pour réduire le capital social, etc. Ça n'est pas forcément dans nos intentions, mais ça fait partie des choses qui sont traditionnellement votées. Je vais commencer rapidement, comme d'habitude, enfin, vous parler de la Champagne, parce que, évidemment, avant de parler de notre groupe, il est important de se remémorer quelques éléments clés. Pour ceux qui ont la chance de voir s'afficher les slides, je suis au numéro 7, c'est la zone d'appellation d'origine. Je rappelle qu'elle couvre 35 000 hectares, 319 communes, et 34 000 sont en production. C'est-à-dire que la Champagne ne peut pas, en l'état actuel de la carte de l'appellation, ne peut pas s'étendre, même si vous savez qu'il y a une révision en cours depuis déjà une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, consistant à réintégrer à l'intérieur de la Champagne actuelle certaines zones qui ont été abandonnées alors qu'elles étaient plantées au XIXe siècle. Il ne s'agit pas de l'étendre en repoussant les frontières, il s'agit à l'intérieur de la Champagne de réintégrer certains coteaux qui le mériteraient, mais ce dossier-là prend énormément de temps et pour le moment il est quasiment à l'arrêt. En 2019, les ventes ont représenté 297 millions de bouteilles, ce qui représente à nouveau, comme l'année précédente, une petite baisse de 1,6%. Et c'est tout de même préoccupant, surtout dans la situation nouvelle dans laquelle nous sommes depuis mi-mars. Le chiffre d'affaires global de la Champagne, lui, a été en légère progression, un petit peu au-dessus de 5 milliards, mais on verra tout à l'heure assez inégalement réparti selon les marchés. La Champagne ne représente que 0,4%, c'est-à-dire même pas 1% de la surface viticole mondiale, mais par contre, elle était la première en valeur. Je vous rappelle que la question des vignes est un sujet essentiel, puisque les vignerons détiennent 90% de la surface. Il y a 17 000 déclarants en Champagne, c'est très très largement réparti, c'est une propriété moyenne un petit peu inférieure à 2 hectares, et des maisons en détenant simplement 10%. Alors qu'elle représente près des trois quarts, entre 70 et 75% des expéditions selon les années, et près de 90% de l'exportation, précisément 89% l'an dernier. Alors, Ce rapide portrait de la Champagne nous rappelle l'importance fondamentale des transactions en raisin. Et le marché du raisin est extrêmement inflationniste ces dernières années, bien au-delà du raisonnable, puisque entre 2009 et 2019, nous apercevons que le prix du raisin a augmenté de 24%, ce qui est de la folie, et alors que le prix de la bouteille, lui, n'a pas du tout pu suivre cela. Sauf si l'on regarde évidemment la cavalcade remarquable du groupe LVMH qui prend de plus en plus de parts de marché à des niveaux de prix élevés, mais qui est assez difficile à suivre. Nous en parlerons tout à l'heure. Ce prix du raisin est l'essentiel du problème que nous rencontrons et nous ne sommes pas les seuls à être confrontés à cela. Évidemment, les circonstances actuelles font que ça va se calmer naturellement parce que la concurrence pour l'achat de raisins va être évidemment stoppée net par l'épidémie que nous connaissons. La vendange 2019, puisque nous parlons de 2019, a été marquée par des aléas climatiques. Il y a eu du gel, il y a eu des vagues de chaleur, il y a eu un rendement globalement modéré, mais qui a atteint le rendement autorisé, c'est-à-dire 10 300 kg par hectare. Et avec, grâce à la très belle météo des dernières semaines, une qualité absolument remarquable. Donc, cette vendange 2019, elle est peut-être un petit peu excédentaire en volume par rapport à ce qu'il aurait fallu décider, mais on peut se consoler de certaine façon en se disant que ce qui est rentré dans les caves est quand même d'une très très belle qualité et sera utile pour le futur, car il faut bien espérer qu'il y aura un futur. Je rappelle que c'est un marché de long terme, le champagne. Je vous présente à chaque fois ce slide qui commence à 1965, on vendait à l'époque en 1965 pas tout à fait 80 millions de bouteilles, vous voyez. Aujourd'hui, même si nous avons un peu baissé par rapport au record de 2007 qui était à 339, eh bien nous sommes quand même à 298 millions de bouteilles. C'est-à-dire que par rapport à 65, c'est pas si mal. Mais il faut reconnaître que depuis une dizaine d'années, les choses sont plus compliquées. Le slide numéro 11, pour ceux qui peuvent le suivre, montre que la seule solution, c'est un développement en valeur. Un développement en valeur, parce que le développement en volume, il n'y en a plus. Donc, comme le prix du raisin continue à monter, on n'a pas le choix, il faut absolument faire un développement en valeur. Et toute la difficulté consiste précisément à créer de la valeur, mais pas, malheureusement, nous n'y sommes pas tout à fait parvenus, mais pas au détriment de nos marges, car ça paraît contradictoire. On crée de la valeur et finalement, on en redistribue encore plus sous forme de raisin, et ce qui fait qu'on est un peu comprimé entre les deux. Et notre action actuellement et les grands changements que nous opérons visent à, bien sûr, réorienter nos maisons sur le chemin de la rentabilité. Le slide 12 vous rappelle les chiffres principaux concernant les parts de marché entre la France et l'exportation. Alors, le drame de la France, c'est que nous sommes passés, il y a 10 ans, 185 millions de bouteilles, en 2019, à 142. C'est-à-dire que le marché a quand même baissé considérablement plus de 22%, presque 25% de pertes en 10 ans. C'est énorme. Si l'exportation, j'inclus là-dedans les pays tiers et l'Union européenne, a progressé, malheureusement, ça n'est pas suffisant. Elle a progressé en regagnant 37 millions de bouteilles, mais ça ne compense pas tout à fait les 40 qui ont été perdus, donc les 39 qui ont été perdus. Donc il y a un manque de ce point de vue-là, même si évidemment en pourcentage, la part des exportations est donc devenue plus importante. Sur les pays tiers qui font évidemment rêver tout le monde et sur lesquels nous essayons de nous implanter, on peut critiquer leur rythme, mais je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi les investissements qui ont été faits précédemment l'ont été dans d'autres domaines que le commercial. C'est peut-être une erreur, mais enfin, c'est un fait. Chaque chose se fait en son temps. On voit que les pays tiers ont évidemment un niveau de progression très, très encourageant. Alors, quand on dit les pays tiers, il faut bien voir qu'on parle essentiellement de deux pays principaux, plus quelques secondaires, mais il s'agit pour commencer des États-Unis, qui sont devenus le premier marché pour le champagne, mais il est très, très contrôlé par le grand producteur LVMH, qui contrôle à peu près 60, plus de 60%, c'est assez très remarquable, et il est assez difficile donc d'y prendre pied, puisque les positions sont déjà très bien tenues. Et le deuxième marché, qui est un peu plus ouvert, c'est le Japon. Nous avons là des sources de satisfaction. Et puis, il y a l'Australie qui se débrouille bien, notamment Lanson est très fort, par exemple. En 2019, je rappelle que vous avez l'habitude du slide que je vous présente, le numéro 14, là, entre d'un côté les volumes, de l'autre côté la valeur. Parce que les pourcentages de parts de marché ne sont pas du tout les mêmes. Puisque si la France représente encore 47,6% des volumes, elle ne représente plus que 39,6% de la valeur. Et ce slide ne fait que se confirmer année après année. Alors, très difficile d'estimer celui que je vous présenterai l'année prochaine, parce qu'il n'est pas impossible que le marché export soit plus violemment impacté que les marchés français. Nous verrons cela, c'est trop tôt pour le dire, mais en tout cas, le mouvement que nous observons sur le slide 14 est un mouvement qui existe depuis plusieurs années. Vous avez sur le slide 15 les principaux marchés d'exportation. Je ne me répète pas, mais vous voyez que par exemple, les États-Unis ne sont pas le premier en volume, si vous regardez les strates de gauche, alors qu'il est de très loin le premier en valeur. Illustration de ce que je vous disais à l'instant, la Grande-Bretagne est le premier en volume, mais loin derrière en valeur, de façon très significative même. Donc ça illustre la variété des marchés et également d'ailleurs la puissance sur certains marchés de certains opérateurs. Alors, dans ce contexte général assez contrasté et légèrement récessif en termes de volume, comment notre groupe s'est-il comporté? D'abord, je rappelle que nous sommes un pure player champenois, créé par des familles champenoises. Il y a chez nous un certain patriotisme champenois, je n'ai pas perdu le terme. Cela nous a amené à investir tous les créneaux de marché du champagne à travers notre courte histoire. Bon, l'actionnariat n'a pas changé, vous le voyez, il est assez stable. La croissance du groupe s'est faite à la fois en interne et en externe. Je rappelle que le groupe a été créé en 1991, c'est tout de même relativement récent, ça fait 30 ans. Bien sûr, ceci explique peut-être certaines de nos faiblesses. En même temps, je crois que nous n'avons pas non plus à rougir, mais les faiblesses sont certainement les investissements dans le domaine aval, c'est-à-dire le marketing, les marchés, etc. Tout cela va changer. Je m'en exprime régulièrement à chaque assemblée générale pour vous expliquer que nous devons d'abord finir de payer nos investissements physiques qui ont quand même été considérables. Nous avons acquis 7 maisons de champagne, 140 et quelques hectares de vignes. Tout cela, vous imaginez que ça ne se fait pas sans des sorties de cash considérables. Et la dernière échéance de ce gigantesque programme d'investissement créé depuis l'origine a toujours été autofinancée ou financée par de l'emprunt à rembourser, puisque aujourd'hui, la dernière échéance, c'est les 7 millions que nous sortons en juin dans quelques semaines et qui vont clore cette longue séance consacrée au remboursement des investissements, je dirais, physiques, matériels. Ça ne veut pas dire qu'on n'a rien fait en marketing, mais en tout cas, ça veut dire surtout que l'heure du marketing et de la conquête des marchés, elle est plus devant nous que derrière nous. Notre ancrage régional est clair, c'est la Champagne, rien que la Champagne, toute la Champagne. Le slide numéro 19, nous avons quand même des belles maisons, malgré les énormes investissements consentis pour les racheter, constituer le vignoble, les stocks, etc. Eh bien, nous avons tout de même embelli ces maisons au fur et à mesure, même s'il reste beaucoup à faire. Notamment, il nous reste un programme à créer de quasiment toutes pièces pour Besserade Belfond, puisque actuellement elle est hébergée chez Blortin, ce qui n'est pas favorable à son développement, puisque évidemment, quand nous amenons des cavistes ou des sommeliers, ça jure un petit peu, ça cloche, quoi. Bien, les fondamentaux du groupe, je le répète, donc nous avons 8 maisons aux identités complémentaires. Le groupe est actuellement constitué de 456 collaborateurs. Et nous avons des outils de production aujourd'hui moderne, satisfaisant. Il n'y a plus de grands investissements à faire. Chaque maison a ses propres circuits de commercialisation. Nous en reparlerons un peu tout à l'heure, plus ou moins efficaces selon les zones. Mais la raison est que, dans le fond, nos maisons sont assez spécialisées. Je demanderai tout à l'heure à chacun de nos présidents de s'exprimer en quelques mots justement sur la spécialité de chaque maison. Comme cela, ça ira mieux si vous l'entendez de cette voix différente plutôt que si c'est moi, ça finirait par être ennuyeux. Nous avons une base d'approvisionnement solide. Nos propres vignobles ne couvrent que 148 hectares à peu près, c'est-à-dire à peine 9% de nos contrats de raisins. Donc, nous avons parmi nos proches, non pas collaborateurs, mais enfin nos proches partenaires, plus de 1500 vignerons qui nous amènent leur récolte de leur vigne et qui sont assez fidèles malgré la pression des grands groupes qui essayent de gagner davantage d'approvisionnement pour approvisionner leurs marques qui ont beaucoup de succès. Notre engagement local est assez marqué aussi par l'application des normes les plus exigeantes en termes de viticulture. Nous avons le plus vaste vignoble biologique de la Champagne, le domaine de la Malmaison, qui fait 17 hectares en bio, Déméter. Et puis nous avons déjà 58% du reste du vignoble qui est labellisé HVE, ça veut dire haute valeur environnementale, au niveau le plus élevé, notamment le vignoble de Filippona. Et, enfin, bref, chaque maison est en tout cas en cours de certification. Alors, je le disais tout à l'heure, nous avons, c'est l'objet du slide 21, nous avons beaucoup investi dans les performances techniques parce que c'est vrai que certaines des maisons que nous avions reprises avaient peut-être un peu de retard de ce point de vue-là. Ça n'a pas empêché de faire des choses qui sont très belles. Vous voyez, pour ceux qui ont la chance d'avoir leurs écrans qui marchent, la gauche du slide, le magnifique chai bois de Lançon. Nous avons réouvert un très beau circuit visite chez Boiselle. Nous avons un magnifique hôtel chez Devenoge, etc. Enfin, toutes nos maisons font des progrès d'embellissement, en tout cas, et pas seulement de qualité des vins, mais aussi d'embellissement, et c'est important. C'est clair que la qualité et la valorisation est de toute façon la seule voie. C'est clair aussi que nous avons un peu de retard là-dessus. Mais en tout cas, c'est la voie sur laquelle nous sommes engagés très résolument. Le no-tourisme est aussi une piste que nous avons ouverte et qui fonctionne très bien là où elle est en ordre de marche. Nous avons peut-être d'autres projets, mais pour le moment, évidemment, ce n'est pas le moment de se lancer dans des grands investissements. Notre groupe aussi, puisque pour acheter Lançon, il fallait acheter une maison qui s'appelle Burtin et qui fait des MDD. Alors, c'est pas tellement les MDD, ça veut dire marque de distributeur, champagne souvent premier prix dans les supermarchés. C'est pas très sexy et c'est pas le but du groupe en soi, mais il fallait acheter cette maison pour avoir Lançon, donc nous l'avons fait. Et après tout, dans la période de crise qui s'annonce, ça nous sera peut-être bien utile pour avoir accès à des possibilité d'allègement de stock si c'est nécessaire. Voilà, donc je vais, après vous avoir rappelé le profil du groupe, mais ça, rapidement son histoire, je vais vous commenter les résultats, bien que vous les connaissez puisqu'ils sont déjà sortis dans la presse à la suite de la réunion des analystes. Je trouve tout ça c'est un petit peu étonnant, moi, qu'on donne aux analystes avant de donner aux actionnaires, mais enfin, il paraît que c'est la règle. Bon. Alors, le contexte est clairement défavorable, sauf sur l'export lointain dont on a parlé tout à l'heure. Donc, c'est vrai que je ne cherche pas une excuse, mais ça a été difficile pour le groupe, il faut le reconnaître. Les maisons les plus exposées aux difficultés de la grande distribution, chez nous, ça concerne Chanoine Frères, qui fait 80% en France et à nouveau 80% en grande distribution. Cela concerne également Maison Burtin, avec sa marque Alfred Rothschild. C'est là où nous avons eu les difficultés les plus importantes. Il y a eu le contexte général, je ne vais pas revenir sur l'ambiance économico-sociale des Gilets jaunes et puis ensuite de la réforme des retraites avec des espèces de grève quasi systématique. Bon, c'est pas très bon pour la consommation parce que je repagne quand même un vin de célébration et de gaieté, donc ça n'est pas, ça n'est guère favorable. Et puis il y a eu en France un sujet très spécifique qui s'appelle la loi Egalim, dont vous avez peut-être entendu parler. Cette loi Egalim visant à améliorer en principe les relations entre principalement l'agriculture et les grandes surfaces. Il faut voir que les grandes surfaces, c'est évidemment une puissance considérable qui a presque un droit de vie et de mort sur un fournisseur selon qu'elle le laisse rentrer ou qu'elle décide de le sortir. Étant donné qu'il y a très très peu de clients en France, finalement, vous êtes entre les mains d'un petit oligopole qui n'est pas facile à... Bon, d'un autre côté, il faut reconnaître qu'ils ont aussi leurs propres difficultés. Vous avez tous entendu parler de certains plans sociaux chez Casino, chez Carrefour, etc. Donc, on ne peut pas ne pas entendre leurs difficultés. Le résultat concret pour nous, tout de même, c'est que il a été quasi impossible d'augmenter les prix et de répercuter les hausses du prix du raisin. Donc, ceci n'est pas très favorable, évidemment, pour les marges des maisons les plus exposées à la grande distribution. Heureusement, la variété de nos maisons et la variété de leur marché fait que ça peut s'inverser d'une année sur l'autre. On en parlait tout à l'heure d'ailleurs avec le Covid, puisque l'année dernière, nos maisons à distribution traditionnelle, qui livrent la belle restauration partout dans le monde, finalement, elles ont très bien marché. Et notamment citer les belles performances de Champagne Philippona ou de Venoge. Mais malheureusement, ça n'a pas compensé tout à fait, puisque vous le savez, le résultat global est en baisse. La maison Lançon est en pleine renaissance et elle a bien consolidé ses parts de marché au Royaume-Uni, qui est son premier marché. Et les projets vont s'étaler maintenant avec, François Vanat vous en parlera tout à l'heure, avec beaucoup de choses dans les tuyaux. Nous avons eu globalement des effets prix mix globalement positifs en dehors de la grande distribution. Concernant les frais financiers, ils ont été contenus grâce au soutien de nos banques, que je tiens à remercier à nouveau, le soutien indéfectible et qui est très précieux, alors à nouveau dans les périodes que nous abordons. Évidemment, pour les banques, la période, je dirais, précédente était peut-être aussi encore plus importante en termes d'engagement parce qu'il y avait la dette senior. Aujourd'hui, la dette senior est quasiment terminée, donc il n'y a plus quasiment que les questions de crédit à l'intérieur de chaque filiale, soit pour un investissement, soit surtout, évidemment, pour le financement des stocks. La structure financière du groupe est assez solide, elle est assez raisonnablement solide, même si on pourrait estimer qu'une partie du stock pourrait être autofinancée. Ce n'est pas le cas actuellement, la quasi-totalité du stock est financée par des crédits bancaires, enfin, pas la quasi-totalité, mais une grande majorité. En tout cas, maintenant, avec la fin de la dette senior qui arrive très vite, eh bien, tout ce qui concerne les acquisitions, la phase de construction du groupe, on peut dire, est terminée. Je vais peut-être, Nicolas, est-ce que vous voudriez, Nicolas Roux-Lugas, m'entendez-vous?
Non? Oui, je vous entends.
Eh bien, voulez-vous dire un mot du compte de résultats?
Eh bien, tel pour les conséquences de ce que Bonopaillard vient d'évoquer, eh bien, cela donne le chiffre d'affaires qui s'établit à 250 millions. Allô?
On vous entend, allez-y.
Soit une baisse de près de 10%. Le résultat opérationnel, bien, il subit évidemment l'effet volume qui a été évoqué, qui est d'autant plus malheureux qu'en réalité, il masque des progrès qu'a évoqué Bruno Paillard chez un certain nombre de maisons avec des effets prix mix qui sont favorables. Le résultat financier bénéficie d'un effet taux qui est encore favorable durant l'exercice 2019 et qui est, comme vous le savez, globalement nettement inférieur à 1%. Enfin, nous bénéficions accessoirement d'une baisse d'IS, certes par la baisse de notre résultat pour impôt, mais également du fait que le Royaume-Uni a compris qu'il était intelligent de positionner un corporate tax à un taux nettement inférieur au taux français. Et compte tenu de la performance de notre filiale Lançon sur le marché britannique, nous en avons bénéficié de façon intelligente. Le taux UK s'établit à 21%, ce qui est tout de même intéressant à noter lorsque l'on se souvient qu'en France, il est encore en 2019 pour des entreprises telles que Lançon BCC établi à 34,43%. Alors tout cela, ça donne un résultat net de 10%. Et concernant le compte de résultat, je crois que l'essentiel est évoqué. Le bilan, Bruno Paillard l'a évoqué, il s'établit à 1,24 milliard. C'est bien simple, ce sont essentiellement des stocks, dont 540 millions au titre des vins en vieillissement, qui sont, cela a été évoqué, financés par une dette bancaire qui s'élève à 470 millions, qui se répartit, si vous voyez le bilan, d'une part entre une part à plus d'un an et d'autre part des dettes à moins d'un an, qui sont en cours de renouvellement actuellement grâce au soutien constant de nos banques. Et puis à côté de ce stock, eh bien, il y a nos immobilisations corporelles, dont nos vignes qui ont été évoquées, les emprises foncières des grands établissements, on rappelle 7 hectares pour Champagne-Lançon sur Reims, 7 hectares pour Champagne-Chanoine sur Reims, les emprises de Maison Burtin, nos installations industrielles bien sûr. Bref, tout cela constitue l'essentiel de ce bilan qui ne connaît pas d'évolution majeure par rapport à l'exercice 2018. Le slide suivant restitue quelques éléments relatifs à la dette financière nette qui s'établit à 544 millions. Alors, vous pourriez dire que c'est nettement supérieur à l'exercice précédent. En fait, non, parce que 6 millions, comme ceci est précisé, proviennent, 6 millions d'augmentation, proviennent d'un retraitement comptable au titre de la norme IFRS 16. Alors, c'est un peu du chinois, ça veut tout simplement dire que l'on valorise au titre de cette nouvelle norme des locations et notamment des baux ruraux, des immobilisations que nous louons notamment au Royaume-Uni, du matériel industriel. Bref, tout ceci, c'est davantage une écriture comptable qu'une dette nouvelle. Mais enfin, c'est intégré dans ce chiffre. Comme vous le voyez, je l'ai évoqué, la valeur comptable du stock de champagne à fin 2019 s'établissait à 540 millions. C'est une progression en valeur, mais qui restitue, en fait, mais qui est constant en volume, je veux dire. Ce n'est qu'une progression en valeur. C'est important de le noter. Et puis, en ce qui concerne les autres dettes qu'a évoqué Bruno Paillard, s'établissait à 68 millions à fin 2019, à rapprocher des 288 millions de capitaux propres. Voilà, en 2019, le groupe a continué à investir de façon substantielle. On avait beaucoup investi en 2018, notamment dans du vignoble, en prenant participation dans un vignoble important de la Croix. Et puis, en 2019, nous avons continué à investir dans nos outils industriels afin de les moderniser, d'en améliorer la productivité, la sécurité. Tout ceci représente un ensemble un peu supérieur à 9 millions d'investissements. C'est tout de même substantiel. Depuis 2006, on vous rappelle, on a investi 154 millions, dont 86 millions d'actifs industriels. Voilà. Alors, le tout donne un gearing qui est souvent évoqué par Bruno Paillard, qui est, dit-on, maîtrisé. Cela est vrai parce que l'on vient de très loin et on le maintient à un niveau inférieur à 2. Il était à 1,87 en 2019. Voilà. Le gearing étant bien sûr le rapport entre les capitaux propres et notre dette financière nette.
Voilà. Merci pour ces précisions. Donc, j'espère que tout le monde peut suivre avec les slides. Les gearing, effectivement, bon, un gearing en champagne en dessous de 2, je crois que c'est correct, surtout quand il y a des vignes au bilan. Nous pourrions rêver de le descendre un peu. Il est stable depuis 4 ans. C'est vrai que je préférais le descendre un petit peu. Il faut pour cela que notre stock maintenant baisse un peu, puisque de toute façon la course au volume n'est pas une option, et donc c'est dans cette direction que nous irons. Je vais proposer d'ici une minute à chacun de nos présidents de prendre la parole. Avant, je vais juste reparler une seconde de la question du dividende. Nous avions, puisque le résultat est quand même en baisse, et nous avions envisagé de proposé un dividende de l'ordre de 25 centimes, ce qui aurait représenté une baisse de 50% par rapport à l'an dernier. Et puis finalement, quand cette histoire de quelques jours après que notre conseil ait pris cette décision, le Covid s'est invité en France de manière assez brutale. Et donc, nous avons décidé de tenir un deuxième conseil au cours duquel nous avons décidé purement et simplement de supprimer ce dividende, puisque là, nous entrions en terra incognita, c'est le moins qu'on puisse dire. Nous sommes dans le brouillard le plus complet. Je vous donnerai tout à l'heure un peu notre vision, mais enfin, c'est très difficile, bien sûr, de se prononcer. Donc, la première décision était conservatoire. Il est évident que de supprimer le dividende par rapport aux bases financières que nous venons d'évoquer, ça n'a pas beaucoup d'incidence, si vous voulez, vis-à-vis des besoins de l'entreprise, puisqu'il s'agissait que de 1,7 million. Donc, bon, ça ne représentait que 18% du résultat, d'une part, et d'autre part, par rapport à l'ensemble des masses nécessaires pour faire fonctionner le groupe, il est évident qu'on parle d'une poussière. Mais nous l'avons voulu pour une décision, pour un motif plutôt, j'allais dire symbolique et de solidarité, notamment vis-à-vis de nos nouveaux dirigeants, puisqu'ils ont tous accepté de rejoindre le groupe avec des salaires plutôt inférieurs à ce qu'ils auraient pu trouver dans des plus grands groupes, mais évidemment avec un bonus sur résultat. Et malheureusement, évidemment, cette crise n'a pas facilité l'obtention des bonus. Donc c'est un geste en leur direction aussi de la part des actionnaires familiaux et avec le soutien de l'actionnaire CIC. Voilà. Merci de cela. Je vais donc tout de suite maintenant, et ce sera un peu plus vivant, passer la parole à chacun. Donc je voudrais dans un premier temps demander à François Van Hal, président de la Maison Lançon, de bien vouloir prendre la parole. François, est-ce que vous branchez dans la salle, c'est possible.
Bonjour à tous, donc François Van Hal, Champagne Lançon. Très rapidement, quelques mots sur la Maison Lançon. Vous savez que les Champagnes Lançon sont disponibles sur tous les circuits de distribution, de la grande distribution au circuit créateur d'images, comme la gastronomie, les cavistes, le duty-free, y compris les compagnies aériennes. Lançon est très ouvert à l'international, avec 75% de nos volumes vendus à l'export et une présence dans plus de 80 pays. La gamme Lançon est proposée à un prix de vente allant d'environ 30 euros pour le brut Black Label jusqu'à 195 euros pour le Clos Lançon. Très rapidement, un petit résumé de 2019. L'année 2019 a été une année de transition et de remise à plat des fondamentaux de la marque. Une nouvelle vision marketing, mais aussi financière, a été décidée et communiquée clairement aux équipes. Une nouvelle plateforme de marque, positionnement et visuel de communication ont été développés. La gamme des cuvées a été redéfinie, réduite de 15 à 10 cuvées, et sera expédiée sur tous les marchés à partir de juin, dans un mois, comme prévu, malgré la crise sanitaire. Une stratégie de prix repensée, avec comme objectif la revalorisation des cuvées afin de mieux refléter la qualité de nos produits, mais aussi d'améliorer fortement la rentabilité année après année, ce qui est le point de départ dans toute notre réflexion sur la Maison Lançon. Une gestion des budgets publics promotionnels rigoureuse, en commençant à réinvestir dès 2020 sur les marchés auprès des consommateurs afin de développer l'image et la valeur de la marque. Et enfin, une stratégie d'approvisionnement en raisin repensée en tenant compte de notre volonté d'ajuster les stocks et de s'adapter à notre besoin sur le plan à 5 ans. Enfin, pour finir, quelques mots sur l'activité actuelle 2020 et le potentiel. Après un premier trimestre 2020 solide, avec plus 16% des expéditions par rapport à 2019, Lançon est bien sûr touché de plein fouet par la crise du coronavirus, mais a conservé un niveau d'expédition relativement dynamique au mois d'avril, mais un carnet de commandes sur mai très faible et aucune visibilité aujourd'hui sur juin. Ces expéditions sont possibles grâce à une équipe réduite, habillage, expédition, ADV, qui travaille pendant la période de confinement. Nous allons dérouler le plan de reconquête sur le second semestre 2020, comme prévu, avec l'ambition d'installer la nouvelle plateforme de marque malgré le contexte actuel. Nous savons bien entendu que nous allons être affectés par la crise mondiale au niveau des expéditions, mais nous contrôlons au mieux les charges, l'idée étant d'amortir au maximum l'impact sur le résultat net provoqué par une baisse de l'activité. baisse qui est aujourd'hui difficilement quantifiable. Juste un mot pour finir, Lançon accueille chaque année sur son site près de 10 000 visiteurs grâce à un circuit de visite unique de la vigne à la coupe. Nous allons ouvrir dès le 4 mai, donc semaine prochaine, un nouvel accueil refait à neuf qui va refléter la plateforme de marque Lançon, communiquer sur tous ses points forts. Nous serons ravis de vous accueillir à Reims pour découvrir notre maison dès que les mesures gouvernementales nous permettent de circuler librement. Merci beaucoup.
Merci François. Je peux vous témoigner que c'est très joli ce travail qui a été fait en bas puisque je suis les travaux semaine après semaine et j'ai revisité ce matin, c'est très bien. Voilà. Alors, je voudrais maintenant passer la parole à Franck Coste. Est-ce que vous êtes en ligne, Franck ? Est-ce que je voudrais en profiter pour demander aux personnes qui tournent des pages devant leur micro de mettre le micro en off, s'il vous plaît, parce qu'on en profite tous et c'est pas nécessaire. Voilà, donc merci. Franck Coste, président du Champagne Chalmans Frères, à vous la parole. Merci.
Parfait, merci Bruno. Bonjour à tous. Comme vous le voyez certainement, je l'espère, sur votre écran, Chalmans Frères 1730 est la deuxième plus vieille maison de Champagne. Je vous invite d'ailleurs à visiter notre site qui a été récemment remis à jour, chalmansfrères.fr, pour découvrir un peu en détail notre histoire qui est très riche, mais aussi notre actualité. De nos jours, notre maison est principalement connue en fait à travers le succès de sa cuvée Tsarine auprès d'amateurs, jeunes, un peu branchés, pour un prix moyen aux environs de 25 €, mais aussi de sa cuvée éponyme Chanoine auprès d'une cible, elle, un peu plus large, un peu plus populaire au sens noble du terme, pour un prix moyen aux alentours de 19 €. Comme le disait Bruno tout à l'heure, notre activité est encore majoritairement française, à hauteur d'à peu près 80%, et principalement dans le circuit de la grande distribution, elle aussi à hauteur de 80% de l'activité France. En fait, l'année 2019, donc pour la maison Chalmans, vous l'avez compris, a été très contrastée et perturbée par de nombreux événements, dont commercialement parlant le processus d'implémentation de la loi Egalim sur le marché français, loi qui, je le rappelle, visait la diminution des promotions en magasin. En fait, ça a entraîné une baisse très importante du marché de 18%. Malgré cela, nos marques phares Tsarine et Chanoine ont marqué des progressions en part de marché, voire en volume pour certaines références. Et grâce à un second semestre très fort, où on a un peu investi, Tsarine a terminé au 7e rang en valeur du marché. Et fort de cette dynamique, la maison a préparé en fait un budget 2020 assez ambitieux. Basé sur le fait que notre activité est trop dépendante des ventes en France, il est donc impératif dans ces conditions d'accélérer le développement dans le réseau traditionnel français, mais aussi à l'export, tout en s'appuyant sur des ventes normalisées en grande distribution France, post-première année Egalim. Dès le début de l'année 2020, on a continué à booster nos marques avec succès d'ailleurs. Une nouvelle plateforme de marques, investissement en communication bien ciblé, les fameux investissements dont Bruno parlait, très fort travail d'animation en magasin, ce qui nous a permis de générer sur le T1 une croissance de notre chiffre d'affaires de 24% sur nos deux marques. Et ce, malgré le fait que la pandémie ait malheureusement cassé cette belle dynamique dès la mi-mars. Depuis, nous avons pu continuer en toute sécurité sanitaire à maintenir nos productions et expéditions. Il nous a permis aussi, grâce à une communication importante sur les réseaux sociaux, d'activer la demande consommateur et de facturer sur ce deuxième trimestre quelques centaines de milliers de flacons. En conséquence, et contrairement aux autres maisons du groupe, nous espérons pouvoir clore ce premier semestre à moins 20% seulement, je dirais, en chiffre d'affaires. Ce sont des chiffres peu satisfaisants, effectivement, au regard de nos ambitions, mais que nous efforçons d'améliorer tous les jours grâce en fait à la force de nos marques, qui en fait le seul vecteur associé à la qualité et l'engagement de nos collaborateurs, pouvant nous permettre une durabilité de la maison. Voilà, je vous remercie.
Merci Franck. Je voudrais également profiter de parole pour rendre hommage à votre collaborateur numéro 1, Philippe Femel, qui a été tué d'un accident début septembre, mais remercier l'engagement de toute l'équipe pour atteindre des bons résultats. Je vais passer la parole maintenant. Est-ce que Charles Philippona de la maison Philippona est en ligne ?
Je pense que vous devez m'entendre.
Bonjour Charles.
Alors, bonjour Bruno.
Parlez-nous de la jolie petite maison Philippona.
La jolie petite maison Philippona suivait un parcours plutôt favorable. Nous avons travaillé depuis 20 ans sur la qualité de ses vins, sur la qualité de son image et sur la reconstruction de circuits commerciaux, aussi bien en France qu'à l'exportation, en la positionnant en termes de distribution exclusivement dans les circuits dits traditionnels, c'est-à-dire la belle restauration et des cavistes indépendants. Aujourd'hui, la maison Philippona vend environ la moitié de sa production en France et l'autre moitié à l'exportation. Nous avons fait des progrès plus rapides en France qu'à l'exportation, mais sommes sur une trajectoire qui doit nous permettre de nous améliorer, notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni, où il y a encore de la place pour nous, où il y a encore de la place pour une progression. Cette progression est évidemment un peu interrompue depuis le 15 mars, mais les fondamentaux de notre stratégie, les fondamentaux de la marque sont là et sont en place et nous permettront, je pense, de reprendre notre croissance dans quelques mois en maintenant ce même positionnement assez haut de gamme qu'on peut illustrer en disant qu'en France, notre Royal Reserve brut non millésimé se vend chez les cavistes autour de 36 euros. Notre Clos d'Aigoisse, qui est notre vignoble phare, se vend environ 180 euros. Et nos cuvées très supérieures, le cuvée parcellaire des Cintres, notre Clos d'Aigoisse rosé, au-delà de 350 euros. 2019 avait été pour nous encore une fois une année record, aussi bien en volume qu'en chiffre d'affaires, avec un prix moyen de vente qui avait été maintenu malgré des volumes de Clos d'Aigoisse du millésime 2009 un peu inférieurs. Et c'est maintenant la crise sanitaire qui vient interrompre, mais nous en sommes sûrs temporairement, ces bons résultats et ce bon développement. Le premier trimestre avait été excellent. Malheureusement, le mois d'avril est beaucoup moins bien. En Champagne, nous faisons un mois d'avril qui ne représente que 20% des ventes habituelles. Sur 4 mois, cela ne représente que 30% des, 70% des ventes habituelles. On accuse une baisse de 30%. Heureusement, nous avons également une activité annexe de distribution de vin qui, elle, à date, a plutôt eu des résultats favorables, puisque sur 4 mois, nous sommes à plus 57%, et cela ramène notre chiffre d'affaires consolidé à une baisse de seulement, si j'ose dire, 21% sur les premiers 4 mois de l'année. Ce qui doit nous permettre de tenir bon et de nous préparer tout simplement à repartir dès que ce sera possible. Nous reprendrons les tournées commerciales en France dès que le déconfinement va se confirmer, puisque même si les restaurants sont encore souvent fermés, et même presque toujours fermés, les cavistes sont restés ouverts et les quelques-uns qui ont fermé commencent à rouvrir et devraient nous permettre de reprendre le travail et de reprendre les ventes sur de bonnes bases.
Merci. Ça, on n'en sait rien. Mais en tout cas, merci Charles. J'avais une question précise au Luxembourg. On vend bien au Luxembourg ?
Au Luxembourg, nous avons traditionnellement un bon distributeur, mais qui est un petit peu moins bien implanté, dans la grande restauration que dans d'autres pays. Mais je sais que quelqu'un voulait savoir s'il pouvait aller au restaurant et trouver à Luxembourgville. Eh bien, il faut aller au Jardin d'Anaïs. Au Jardin d'Anaïs, vous pourrez voir du Philippona et du Clos d'Aigoisse à Luxembourgville. Et si vous voulez en acheter pour la maison, allez à la cave Romès à Esch-sur-Alzette.
Merci Charles, très bien. Merci. Toujours dans la rubrique de nos maisons plus petites en volume, mais qui font des vins de haut de gamme, je voudrais passer la parole à Gilles de la Bastière, président du Champagne de Veneuge. Gilles, est-ce que vous m'entendez ?
Oui, bonjour Bruno. Bonjour à tous.
Très bien. Alors donc, allez-y.
Donc, la maison de Veneuge, fondée en 1837, est une petite maison de prestige qui est distribuée uniquement chez les cavistes et dans la restauration. On fait à peu près 52% de nos ventes en France, 48% à l'export. Il faut savoir que les ventes export ont beaucoup progressé ces dernières années, avec des prix publics allant de 32 euros pour le brut cordon bleu, en passant par 60 euros pour la gamme des princes et jusqu'à 180 euros pour le Louis XV et même un peu plus pour le Louis XV rosé. Donc 2019 a été une excellente année pour De Veneuge, avec un développement important notamment de la gamme des princes, avec le lancement réussi du Prince Tour Eiffel, créé pour le 130e anniversaire de la construction du bâtiment. Je peux déjà vous dire que nous avons signé un contrat de 3 ans pour l'utilisation du nom de la Tour Eiffel avec la société d'exploitation de la Tour Eiffel. Donc, c'est une référence qui va se prolonger. Donc, également, on a connu d'excellentes notes pour De Veneuge cette année chez le célèbre expert James Suckling, qui positionne notre maison parmi les meilleures maisons de Champagne. Également, une très belle réussite en France avec le service à la coupe du Prince Blanc de Noir au restaurant Mirazur à Menton, 3 étoiles Michelin et élu meilleur restaurant du monde en 2019. Pour ce qui est de 2020, Comme vous le savez certainement, le premier trimestre a été plutôt bon chez De Venoges, jusqu'à la mi-mars, où nous avons connu depuis un arrêt quasi total de la distribution mondiale en restauration. Comme le disait Charles précédemment, les cavistes continuent de vendre, mais on constate qu'ils vendent essentiellement des vins et alcools bas de gamme, et on constate une très forte baisse des ventes de champagne. Donc, chez De Venoges, et je pense que chez tout le monde, la maîtrise des coûts devient une priorité. Donc, on peut dire que très rapidement, une très grande partie de nos collaborateurs ont été mis au chômage partiel. Nous prévoyons également un tirage très faible qui nous permettra de réduire nos stocks et donc de maîtriser notre endettement. Alors, De Venoges, c'est également une activité œnotouristique avec 4 suites, un appartement, un bar boutique qui a connu une très belle année 2019. Le début d'année était très prometteur avec des progressions à plus de 20%. Et un taux de remplissage très élevé, hein, proche des 80% jusqu'au mois de septembre. Mais malheureusement, on connaît des annulations qui sont en cascade et tout ce taux de remplissage fond comme neige au soleil. Et on est prêt à réouvrir dès que le gouvernement et les mesures gouvernementales nous le permettront. Je vous remercie.
Merci Gilles. Espérons effectivement l'activité puisse reprendre pour l'été, parce que si on ne peut pas ouvrir avant l'été, là, nous sommes tributaires des mêmes règles que nos clients restaurateurs, évidemment. Bien, merci. Est-ce que nous pourrions parler avec Florent Roquebozel? Est-ce que Florent Roquebozel m'entend?
Oui, bonjour Bruno. Très
bien,
bonjour à
merci.
Tous.
Je vous laisse vous parler de la maison Boisel, qui est sur un positionnement un peu différent.
Voilà, donc la maison Boisel, comme vous le savez peut-être, elle est située à Épernay, au 46 avenue de Champagne, avenue qui a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2015. Nous sommes juste en face de nos amis de Venoges d'ailleurs. Notre maison, elle est depuis plus de 30 ans le spécialiste en Champagne de la vente B2C, donc la vente directe aux consommateurs. Ces ventes se font par courrier bien sûr, mais aussi de plus en plus grâce au digital. Bruno en a parlé tout à l'heure, cette activité, on l'a complétée en 2018 par une ouverture à l'onotourisme, avec la création de l'atelier 1834 et d'un circuit de visite de cave qui a accueilli plus de 5000 personnes en 2019, dont 90% de clients étrangers. Notre distribution, elle est répartie entre 55% à l'export en secteur traditionnel et 45% en France, essentiellement en B2C. La gamme de nos champagnes, elle commence à environ 30 euros, jusqu'à 115 euros pour la cuvée sous bois millésimée. Et d'ailleurs, nous allons compléter cette gamme en 2020 avec la création de la collection Trésor, qui sera une gamme composée de millésimes anciens et rares, positionnée à plus de 200 euros, mais disponible en quantité très limitée. Voilà, pour ce qui est de l'activité en 2019, la maison a connu un changement de direction en janvier, accompagné d'une nouvelle dynamique de création de valeur et de développement de la marque. Le changement de génération a d'ailleurs engendré de nombreuses retombées presse en France et à l'étranger qui ont fortement augmenté notre visibilité dans les médias. En parallèle, les ventes ont progressé en valeur et en volume, notamment grâce à la belle performance de la vente directe et de l'onotourisme qui connaît actuellement un fort développement en Champagne. Enfin, pour 2020, après un début d'année encourageant, notre activité est évidemment ralentie depuis mars. L'export est à l'arrêt, c'est net, mais la vente directe nous permet de maintenir une activité malgré le confinement et les incertitudes de livraison. Pour vous donner une idée, pour cette activité, en avril, nous serons en baisse de 65% comparé à avril de 2019. Voilà, malgré ça, nous restons optimistes et on espère que le lien de proximité que nous entretenons avec les clients va nous permettre de repartir plus vite dans les semaines et les mois à venir. Voilà, je vous remercie.
Ok, merci Florent. Oui, c'est effectivement tout cela est bien dommage. Mais enfin, bon, en tout cas, ce qui est important, c'est la tendance de long terme. Et je crois que chez Boisel, la grosse phase d'investissement est terminée. Aujourd'hui, c'est vraiment l'investissement commercial maintenant. Le siège, la visite, tout ça est magnifique. Ça vaut le coup de venir voir. Alors, nous avons maintenant un dossier un peu plus complexe, un peu plus compliqué. Maison qui a beaucoup souffert en 2019, c'est la maison Burtin. La maison Burtin qui est également propriétaire de la marque Champagne Bessrat Delfond. Est-ce que Fabien Henri Montand?
Oui, bonjour Bruno, bonjour à tous.
Bonjour Fabien. Ben, je vais vous laisser nous parler un peu de la complexité de ce qui se passe chez vous et de ce que nous allons devoir remettre en place. Allez-y.
Oui, effectivement, l'activité de maison Burtin est assez complexe et elle se divise en fait en trois métiers distincts. Alors, premièrement, Bessrat Delfond, cette marque purement caviste et restauration a vocation à être prochainement traitée à part de Maison Burtin, de façon à affirmer sa personnalité très différente. Hein. Par ailleurs, le repositionnement haut de gamme se poursuit pour 2020. Deuxièmement, il faut parler de Alfred Rothschild. Depuis plusieurs décennies, Maison Burtin, en collaboration avec les familles Rothschild de Bordeaux, produit et diffuse le champagne Alfred Rothschild en grande distribution française. Cette marque fait désormais partie du top 3 des marques les plus vendues en grande distribution française. En 2019, la loi Egalim a eu le mérite de refléter davantage la sincérité des prix. D'ailleurs, nos expéditions de champagne Alfred Rothschild n'ont fléchi que de moins 3% en volume sur un marché à moins 15%. Hein. Ce sont les chiffres de sortie caisse magasin évalués par l'indice Nielsen. Cependant, les hausses successives du kilo de raisin dont vous avez parlé n'ont pas pu être répercutées sur nos prix de cession compte tenu des exigences de la grande distribution et de la concurrence exacerbée dans ce réseau. Troisième point d'activité, les champagnes de marques de distribution ou marques réservées ou assimilées. Ces marques appartiennent le plus souvent aux distributeurs eux-mêmes. En 2019, en France, là aussi, la loi Egalim est passée par là et aura eu une influence très particulière sur ce segment de marché. En obligeant les distributeurs à avoir une marge minimum de 10%, elle a favorisé le développement du haut de segment au détriment du volume. Dans ce contexte, Maison Burtin, en France et à l'export, et dans cette catégorie, a vendu 16% de moins, mais en maintenant les prix. Malheureusement, sans pour autant absorber la hausse du kilo de raisin. Dans les prochains mois, la crise que nous connaissons risque d'affecter davantage ces champagnes dits de MDD au niveau du prix. En effet, si des mesures fortes ne sont pas prises par l'interprofession concernant le rendement de la future vendange de 2020, le cours pourrait s'aligner sur le marché court terme de l'offre et de la demande, et cela évidemment au détriment du coût de revient réel de nos produits. Voilà ce que je voulais préciser.
Bien sûr. Bon, c'est clairement au sein de Maison Burtin qu'il nous reste encore pas mal de réformes à faire. Nous travaillons là-dessus avec Fabien, bien sûr, et puis il faudra certainement encore poursuivre les efforts. Merci. Je voudrais maintenant savoir si Arnaud Fabre, nouveau président de la maison Alexandre Bonnet, serait en ligne. Arnaud, est-ce que vous m'entendez?
Oui, bonjour à tous.
Voilà, eh bien, je vous donne la parole. Allez-y.
Alors, rappelons tout d'abord que Champagne Alexandre Bonnet réunit deux activités. Premièrement, c'est un centre d'approvisionnement pour le groupe, grâce à ses nombreux contrats détenus dans la Côte des Bars, dans le sud de la Champagne. Et c'est bien sûr la marque Alexandre Bonnet, centrée sur son domaine viticole de 47 hectares, situé au Rissé, le cru le plus recherché de la Côte des Bars. Nos vins sont distribués dans les circuits traditionnels, aux trois quarts à l'export, dans une échelle de prix de 29 à 69 euros TTC. En 2019, nous avons élaboré des vins blancs comme rouges très expressifs, à destination du groupe et de nos partenaires, mais aussi de belles cuvées parcellaires pour Alexandre Bonnet. L'an dernier, nous avons également restructuré la gamme et nous sommes en train d'affiner notre positionnement marketing en recentrant Champagne Alexandre Bonnet sur son patrimoine viticole, certifié HVE niveau 3 depuis 2015 et sur lequel nous poursuivons l'amélioration qualitative. Ces avantages nous permettent d'attaquer le marché par le haut avec trois extra bruts, un champagne certifié bio et un rosé de saignée, ce qui répond à la polarisation croissante du marché qui va être renforcée selon nous par la crise que nous traversons. Nous continuons par ailleurs à animer nos marchés historiques et notamment retail en Scandinavie avec nos bruts sans année. Actuellement, comme les autres maisons, l'activité sur la France est limitée aux cavistes. L'export a expédié les commandes programmées avant le confinement et enregistre quelques réassorts en Angleterre, en Suède et en Norvège, ainsi qu'un nouveau référencement en Finlande. Nous préparons le redémarrage en restant proche de nos clients et prévoyons un CA en baisse d'au moins 30% sur l'année. Longtemps restée discrète sur les marchés comme au sein du groupe, nous travaillons à ce que Champagne Alexandre Bonnet affirme aujourd'hui sa position de pépite d'Hérissé pour en faire la référence incontournable de la Côte des Bars. Je vous remercie pour votre attention.
Merci beaucoup Arnaud. C'est effectivement, vous l'avez, dans votre conclusion, vous avez mentionné que Alexandre Bonnet a vocation à sortir les indiscrétions. Il est clair que la situation actuelle nous amène à vraiment jouer à fond de nos atouts plutôt que de chercher des volumes. Il faut développer déjà ce que nous avons en interne. Voilà. Alors, maintenant, il faut évidemment que je vous parle des perspectives. Alors, ça, c'est l'exercice le plus difficile à faire aujourd'hui, puisque les perspectives, quand vous êtes en plein brouillard, et je dirais même on est plus qu'en plein brouillard, on est carrément enseveli dans une avalanche. Là, hein, l'image est à peine exagérée. Par contre, évidemment, nous devons essayer de faire des prévisions, ne serait-ce que pour prendre des décisions cohérentes dans la situation que nous connaissons. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, ça marche, hein?
Oui.
Ça marche? Oui, ça marche, très bien.
Oui, oui.
Bon, donc, je vais me risquer, bien que ce soit assez compliqué, à estimer que si le premier trimestre a été favorable pour le groupe, surtout pour nos marques les plus haut de gamme, mais même globalement et même en incluant la dernière quinzaine de mars, la deuxième quinzaine de mars, eh bien, l'ensemble de la progression du groupe était en progression au premier trimestre. Il est évident que le deuxième a un profil totalement différent. Si nous regardons à peu près segment par segment, nous voyons que la grande distribution enregistre, d'après les premiers éléments que nous avons, des sorties caisses de l'ordre de moins 65%. Nous voyons que le segment de la restauration est à l'arrêt total jusqu'à une date qui n'est pas encore fixée. On ne sait pas si ce sera le 2 juin, le 2 juillet, etc. On ne sait pas quand ça va reprendre. Et nous voyons que la vente aux particuliers, celle par les cavistes, est de l'ordre de moins 50%. Et nous voyons enfin que l'exportation est aussi quasiment à l'arrêt, à part peut-être la grande distribution en Angleterre. C'est à peu près un petit peu en Australie. Voilà, ce sont à peu près les seules lueurs d'espoir qui fonctionnent encore un petit peu. Et puis peut-être tout de même si les monopoles d'Europe du Nord, curieusement, qui fonctionnent encore. Ça ne permet pas d'envisager mieux qu'une chute de l'ordre de 50 à 55% à l'exportation sur le deuxième trimestre. Si nous mettons tout cela ensemble, et nous obtenons une perspective au deuxième trimestre de l'ordre de moins 75%. En espérant que les choses ne se aggravent pas, le troisième trimestre pourrait être à moins 50 et le quatrième à moins 25%. Voilà toutes les hypothèses sur lesquelles nous travaillons. Ceci ferait sur l'ensemble de l'exercice, pour l'ensemble de la Champagne, mais comme pour nous, puisque le fait que nous soyons très diversifiés, que nous soyons sur tous les marchés de la Champagne, fait que finalement nous collons assez à la réalité de l'ensemble de la profession. Nous pourrions être à moins 30, voire peut-être moins 35% sur l'ensemble de l'exercice, ce qui est évidemment assez angoissant. Alors, dans cette circonstance, que faisons-nous? D'abord, la première chose à se dire tout de même, c'est qu'une bouteille qui ne sort pas, elle ne sort pas, elle est toujours là, il faut en stock. Alors, ça pèse sur le poids des stocks, mais enfin, au moins, on n'a pas détruit la valeur correspondance. Nous ne sommes pas comme le pauvre fabricant de mulier du 1er mai qui va être obligé de détruire sa récolte, si vous voulez. Nous, les bouteilles restent en cave. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, bien que nous ayons essayé d'y avoir recours le moins possible, nous avons tout de même le chômage technique proposé par le gouvernement qui va pouvoir alléger une partie deuxième poste, bien qu'il vienne loin derrière, qui s'appelle évidemment le poste des salaires et des charges sociales, va être un petit peu allégé, même si nous faisons tout pour éviter d'y avoir recours. Troisièmement, le soutien de nos partenaires bancaires est indéfectible et je tiens à nouveau à les en remercier. Et bien sûr, nous utiliserons les outils mis à disposition par le gouvernement pour passer cette crise. Un des éléments clés tout de même de la santé de la filière champagne dans son ensemble, c'est tout de même que nous nous mettions d'accord entre les acheteurs, c'est-à-dire les maisons de champagne qui font quand même près de 80% des ventes, et les vignerons qui détiennent 90% de la surface, pour que le rendement à la prochaine vendange soit raisonnable de façon à ne pas aggraver un surstock qui pourrait conduire à des dégradations tarifaires de la part de certains opérateurs qui voudraient fuir un stock qu'ils ne peuvent plus financer. Donc, c'est un élément fondamental. Je rappelle que je suis au bureau exécutif du CIVC qui doit prendre des décisions et bien sûr, nous travaillons à ce qu'elles soient donc les plus raisonnables possibles. Cela dit, tout cela ne sera connu qu'en en juillet, sachant que un mot sur l'état actuel du vignoble, nous avons presque un mois d'avance dans la végétation. Quand vous vous promenez dans les vignes aujourd'hui, vous avez presque l'impression d'être début juin, tellement le vignoble est totalement vert, les feuilles sont sorties, étalées largement, on en voit plein. C'est assez impressionnant. Ça pourrait être dangereux, même parce que je rappelle tout de même que jusqu'au Sainte-Glace, c'est-à-dire jusqu'au 8 ou 10 mai, eh bien, nous avons toujours un risque de gelée nocturne qui pourrait tuer la perspective de récolte. Alors, je ne veux pas faire une mauvaise plaisanterie en disant que ça réglerait peut-être un des problèmes, parce que ce ne serait pas très sympa, mais enfin, en tout cas, voilà où est la Champagne aujourd'hui, comme quoi les situations peuvent se retourner très brutalement par rapport à la surenchère du raisin que nous avons encore vécu l'an dernier. Bien, cela dit, voilà les perspectives, elles ne sont donc pas faciles à déterminer. Je voudrais quand même saluer. Toutes nos maisons sont restées ouvertes. Tous nos patrons sont là. Ils vous ont tous appelé depuis leur bureau respectif. Ils sont tous là avec leurs gardes rapprochés, avec des équipes réduites, bien sûr, dans la plupart des cas, puisque s'il n'y a pas de commande, bah, c'est évidemment, on fait au maximum. Enfin, selon le profil de clientèle des maisons, évidemment, les équipes sont plus ou moins réduites. Mais, par exemple, nous voyons des belles choses, comme des gens des bureaux qui acceptent d'aller travailler dans les vignes pour donner un coup de main, puisque la végétation va très vite et qu'elle est très en avance. Bah, quelquefois, nos équipes vignes sont un peu débordées, donc voilà l'occasion d'aller prendre l'air de façon sympathique, utile. Et je veux à nouveau remercier l'engagement de chacun. Je ne peux pas malheureusement être plus complet sur la question des perspectives, et je crois que chacun le comprendra. Tout dépendra de la reprise de la consommation. La reprise de la consommation, c'est deux choses. Premièrement, est-ce qu'on va trouver demain, oui ou non, un médicament à ce satané virus? Dans ce cas-là, on pourrait dire que psychologiquement, ça libérerait les esprits pour reprendre des moments de célébration et de convivialité. Ou est-ce qu'on va encore vivre un an, ou peut-être, deux ans, avec ce truc, et qui fait que tout le monde est terrorisé, que personne n'ose sortir, ni aller dans les restaurants, ni prendre un avion, ni aller dans les boutiques. Vous imaginez ce que ça représente. Je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais les duty-free, par exemple, ou les compagnies aériennes, c'est aussi très important, particulièrement pour Lançon. Bon. Donc, il est évident que tout cela, aujourd'hui, est totalement unpredictable, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Alors, pour continuer sur, j'avais deux points à vous dire, sur le cours de bourse. Ben, il est évident que le cours de bourse, il n'est pas très satisfaisant, mais que voulez-vous que je vous dise? Je rappelle quand même que le cours de bourse, ce n'est pas nous qui le faisons, c'est les gens qui ont acheté des actions à 4,95 € lorsque nous nous sommes introduits en bourse, et puis après, ils se les ont achetés, revendus, donc ça monte, ça baisse. Je rappelle qu'il y a eu de temps en temps des distributions d'actions gratuites, c'est peut-être une mesure qu'il faudra reprendre. Aujourd'hui, la valeur en bourse est assez ridicule, mais que voulez-vous que j'y fasse, puisque rien que les simples capitaux propres du groupe représenteraient théoriquement pratiquement le double du cours d'aujourd'hui, puisqu'elle est à 20 € et il y a 40 € de fonds propres par action. Donc c'est un petit peu idiot, mais je crois qu'effectivement on peut admettre qu'il y a des craintes sur les résultats, et effectivement, de ce point de vue-là, ça peut être justifié. En ce qui concerne les relations actionnaires, je voudrais dire qu'il existe un document, vous savez, on appelait ça le doc de ref, autrefois le document de référence, maintenant il a changé de nom, il s'appelle le document d'enregistrement universel, et il est un peu rébarbatif, mais enfin pour ceux d'entre vous qui s'intéressent aux détails des comptes, eh bien, il est disponible depuis le 26 mars, hein. Il est disponible sur notre site ou alors auprès de l'AMF. Notre brochure va l'être aussi aujourd'hui même, et nous allons l'envoyer en format papier rapidement pour ceux qui préfèrent du papier au format digital. N'hésitez pas à nous en réclamer si vous ne pouvez pas. Voilà, nous avons bien sûr, vous le savez, une adresse actionnaire. De temps en temps, nous avons des informations. Ce sont souvent d'ailleurs des informations où on nous demande un peu des choses à caractère commercial. C'est toujours bienvenu. N'hésitez pas à nous questionner, à demander s'il y a une offre spéciale actionnaire, etc. Nous serons ravis de vous l'envoyer. Voilà. Alors, je voudrais maintenant passer, pour rester dans l'ordre du jour de l'Assemblée, passer la parole à messieurs les commissaires aux comptes. Peut-être Nicolas Rolobiga, j'ai des rapports sur la gouvernance, des choses un peu rébarbatives. Pouvez-vous les faire assez rapidement? C'est pas forcément très amusant, mais comme il faut le faire. Si vous voulez bien les finir rapidement, merci.
L'essentiel a été dit de nous à l'instant. Ce document d'enregistrement universel auquel vous pouvez accéder facilement sur le site de la société contient un rapport sur le gouvernement d'entreprise, une quinzaine de pages, qui est un rapport assez riche qui donne un certain nombre de précisions sur le fonctionnement de notre groupe et de ses instances de gouvernance. Il contient aussi beaucoup d'autres choses, notamment des rapports spéciaux qu'on doit évoquer, mais dont l'intérêt est tout de même, il faut bien l'admettre, assez secondaire. Je pense que l'essentiel maintenant est de permettre à Laurent Genin, le représentant de KPMG et du collège de nos commissaires aux comptes, de lui permettre de s'exprimer sur ses propres rapports.
Eh bien, très bien, messieurs les commissaires aux comptes, si vous voulez bien y aller.
Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les actionnaires. Donc, au nom du Collège des commissaires aux comptes, les cabinets Grant Thornton et KPMG, nous vous rendons compte aujourd'hui de notre mission sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019. Nos rapports sur les comptes annuels et sur les comptes consolidés, ainsi que le rapport spécial sur les conventions réglementées et sur la réduction de capital proposée dans la 9e résolution de cette Assemblée, ont été tenus à votre disposition par la société et ils sont par ailleurs reproduits dans le document d'enregistrement universel. Je vous propose, comme le veut l'usage de cette assemblée, de vous en résumer les termes. Je vous rappelle que l'objectif principal de notre mission de certification des comptes est d'obtenir une assurance raisonnable sur la sincérité, la régularité et l'image fidèle des comptes et sur le fait que ceci ne comporte pas d'anomalie significative. Je commence sur le rapport relatif aux comptes individuels de votre société Lançon BCC. Ils ont été préparés, comme d'habitude, selon les principes comptables français et, comme cela a été mentionné, ils ont été arrêtés cette année par le conseil d'administration dans le contexte que l'on connaît de la crise du Covid-19. Alors, notre rapport mentionne une certification sans réserve et sans observation. Cette opinion repose notamment sur une justification d'appréciation qui concerne l'évaluation des titres de participation qui représente la quasi-totalité du bilan de la société. Concernant les vérifications spécifiques, nous vous confirmons que toutes les informations prévues par loi ont bien été fournies par Lançon à ses actionnaires et que nous n'avons pas d'observation sur la sincérité et sur la concordance avec les comptes annuels des informations financières qui figurent dans le rapport de gestion. Concernant les comptes consolidés du groupe, ils ont été préparés, ceci selon le référentiel comptable international IFRS et arrêtés toujours dans ce contexte évolutif de la crise sanitaire. Ces comptes sont également certifiés sans réserve, avec une observation de nature purement technique et qui est relative à l'entrée en vigueur d'une nouvelle norme comptable sur la comptabilisation des contrats de location. Monsieur Rouleau-Dugas en a parlé tout à l'heure. Dans ce rapport sur les comptes consolidés, nous avons considéré comme justification d'appréciation des éléments qui comprennent des estimations significatives de la direction, de l'évaluation des écarts d'acquisition et des marques avec la mise en œuvre d'un test de dépréciation annuel, et enfin de l'évaluation des provisions relatives aux engagements de retraite et aux autres avantages postérieurs à l'emploi. S'agissant maintenant du rapport spécial sur les conventions et les engagements réglementés, Il ne nous a donné été avis d'aucune convention ni d'aucun engagement autorisé au cours de cet exercice écoulé 2019 à soumettre à l'approbation de la présente Assemblée générale. Par ailleurs, nous avons été informés que l'exécution des deux conventions et engagements suivants déjà approuvés par l'Assemblée générale au cours d'exercices antérieurs se sont poursuivis au cours de l'exercice 2019. Il s'agit en premier lieu d'un engagement de cautionnement conjoint et solidaire auprès des sociétés Maison Burtin, AR et LID, et au profit de la société PEBR dans le cadre d'un partenariat permettant à votre filiale la Maison Burtin l'utilisation de la marque Alfred Rothschild. Enfin, la dernière convention est relative à un bail commercial qui a été conclu entre votre société et sa filiale Champagne de Venoge et qui se poursuit au titre de l'exercice 2019. Je finirai mon intervention au nom du Collège par évoquer le dernier rapport, celui sur la réduction de capital qui vient en support de la décision que vous allez prendre, la décision numéro 9 au titre de la réduction de capital. Ce rapport ne formule aucune observation sur les causes et conditions de la réduction du capital envisagée. Je vous remercie pour votre attention et je vous redonne la parole, Monsieur le Président.
Merci. Ce rapport sur cette résolution... Je m'étonne toujours un peu parce qu'il n'y a pas de réduction de capital envisagée. Donc, je ne sais pas pourquoi on fait ça à chaque fois.
Mais on le Alors, fait. Il s'agit. Pardon. Oui. Oui, il s'agit sur l'utilisation qui pourrait être faite, effectivement, de cette autorisation.
Très bien, très bien. Bon, ben écoutez, de toute façon, je vous remercie, messieurs les commissaires aux comptes. KPMG et Grant Thornton. Je vous remercie, cher monsieur. Votre collègue ne veut pas prendre la parole, non? Vous parlez au nom des deux.
Pour simplifier les débats et encore plus par téléconférence, on a choisi de le porter en une seule voix, mais mon confrère Mallory est également connecté et,
ouais,
et j'ai absolument. Porté la voix cette année. Nous alternerons l'année prochaine.
Absolument, bonjour.
Il est d'accord.
Bien bon, sûr.
Absolument, monsieur le Président.
Bonjour, très bien, merci. Parfait. Alors, je vais maintenant, avant de passer au vote des résolutions, nous avons reçu un certain nombre de questions, donc je vais essayer d'y répondre assez rapidement. Alors, un interlocuteur du Luxembourg qui a posé plusieurs questions. Alors, il dit qu'au Luxembourg, nos champagnes sont mal distribuées. Ben, voilà qu'il a raison, c'est vrai. J'en discutais tout à l'heure avec François Vanal qui me disait que c'est un problème général en ce qui concerne la Maison Lançon dans tout le Benelux. Donc, ils étaient en train de travailler sur la remise à plat de cette zone. En aparté, Gilles de la Bastière me disait tout à l'heure, par exemple, que de Venoge et des champagnes du Casino 2000 à Mondorf-les-Bains. Et puis, je crois que nous avons entendu tout à l'heure Charles Philipponin nous dire lui-même qu'il y avait tout de même deux, trois exemples, le jardin d'Anaïs, les caves Rome, etc. Voilà. Bon, donc, c'est pas tout à fait exact de dire que nous sommes absents du Luxembourg. Il faut reconnaître que c'est vrai que je ne suis jamais tellement préoccupé donc, d'aller voir ce qui se passe au Luxembourg. Pardon, je n'avais pas remarqué jusqu'ici que c'était le centre du monde. Mais on va essayer d'y remédier. J'ai deux questions qui sont un peu redondantes. La réflexion au niveau du groupe pour modifier le comportement d'un acheteur de champagne qui va acheter du Mouette et Chandon ou du Cliquot. Comment fait-on pour lui faire acheter du Lançon? Et puis alors après, on me pose une question qui est un petit peu similaire. Comment fait-on pour garder les parts de marché face à LVMH ou face aux vignerons indépendants? Car c'est vrai que ce sont deux phénomènes très différents, mais qui prennent tous les deux de l'importance. Alors, j'ai un petit peu, tout à l'heure dans l'historique, et d'ailleurs j'avais déjà l'année dernière indiqué que c'était dans les directions que nous comptions prendre, l'histoire du groupe a été faite de croissance qui a été quand même très 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 coûteuse en investissement, et en investissement, j'allais dire, physique. Bon, au moins ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils sont là, ils ne vont pas s'envoler. Hein. Mais ils étaient nécessaires pour pouvoir produire, mais il est clair que les investissements les plus importants à venir seront les investissements marketing et commercial. C'est le sens de la nouvelle gouvernance qui est mise en place dans toutes nos maisons. Vous avez entendu nos présidents de maison tout à l'heure. Et là-dessus, il y en a quatre nouveaux qui ont une feuille de route assez similaire. En gros, ça tient en trois mots, valorisation, valorisation, valorisation. C'est assez simple. Il faut suivre le chemin qui a déjà été pris par deux présidents plus anciens, comme Charles Philipponin ou Gilles de la Bastière plus récemment, pour qu'on comprenne où nous voulons aller. Et c'est sur cette base-là que nous travaillons en toute priorité. Une autre question, quelqu'un qui comparait un petit peu la désirabilité ou le pouvoir d'attraction d'un Clos d'Aigoisse par rapport à Dom Pérignon ou à une noble cuvée Lançon. Alors, d'abord, ça ne se comporte pas tout à fait. Clos d'Aigoisse, comme son nom l'indique, c'est un clos. La production est limitée. Et Charles Philippona vous a dit tout à l'heure qu'il avait pu, en 2019, maintenir son chiffre d'affaires malgré une moindre disponibilité de Clos d'Aigoisse parce que le millésime qu'il a commercialisé, qui était le 2009, était tout simplement plus petit en volume. Et ça, c'est la règle d'un vin à l'origine géographique limitée. Dom Pérignon, c'est très différent puisque les nouveaux contrats que le groupe LVMH peut gagner peuvent lui permettre d'augmenter sa production de Dom Pérignon. Mais Clos d'Aigoisse, ce n'est pas la même chose. On ne peut pas l'étendre. Ça, c'est le premier point. Alors, en ce qui concerne la noble cuvée de Lançon, je crois que nous vous en parlerons plus longuement l'année prochaine parce que dans le plan de redéploiement de la marque Lançon, vous avez entendu tout à l'heure François Vandal expliquer qu'il y aurait moins de cuvées et par contre, il y aura sans doute plus d'investissement sur celle-ci en particulier qui a besoin d'être redéfinie. Voilà, alors j'ai une autre question concernant la paupérisation, les événements, les gilets jaunes, etc. C'est évident que ça ne nous a pas simplifié les choses. Là aussi, il faudra une réponse marketing adaptée à tous les niveaux. Vous avez, puisqu'on parle des gilets jaunes, vous avez ou des gens qui n'ont pas forcément un énorme pouvoir d'achat. Il ne faut pas oublier que le champagne est un vin qui peut être un vin populaire. Les classes populaires peuvent en consommer. C'est le marché que livre Maison Burtin, mais aussi dans une certaine mesure Chanoine, puisque Chanoine livre un magnifique produit. Quand vous achetez une bouteille de Tsarine, ça peut aller sur une table de très grande élégance, ça peut aller dans le plus bel hôtel particulier de l'île Saint-Louis, mais ça peut aussi aller chez un ouvrier moyen qui veut faire plaisir à sa femme pour fêter son anniversaire de mariage, parce que le prix est relativement modeste. Et en même temps, la qualité est là. C'est un vin, un goût moins, peut-être personnalité moins forte qu'un Philipponin, bien sûr, mais ou qu'un Lançon, mais qui plaît à tout le monde et qui est sans succès et n'est pas dû au hasard. Je rappelle que c'est une pure création interne. Ça, c'est pas de la croissance externe, c'est de la croissance interne. Donc, nous nous adressons aussi à la clientèle à pouvoir d'achat modeste. Il n'est pas interdit de penser que si la crise devait durer, finalement, toute la clientèle à haut pouvoir d'achat qui a fait fantasmer tout le monde et qui a mobilisé tous nos efforts soit finalement sauvée par les supermarchés. Vous savez, dans les crises précédentes, on a déjà vu ça. Ce n'est pas mon souhait, parce que ça voudrait dire qu'il y a un effondrement global du marché. Mais enfin, il ne faut pas se couper d'aucune tranche de clientèle. Et pour moi, un gilet jaune, c'est aussi un client potentiel. Voilà. Mais la crise du Covid, c'est une autre affaire. Je ne peux pas répondre là-dessus. Je n'ai aucun élément de réponse. Je ne suis pas plus malin que les grands experts qui se contradisent tous les jours les uns les autres. Donc là-dessus, n'ayant pas d'expertise, je ne répondrai pas. Alors ensuite, les statuts prévoient une limite d'âge à l'exercice des fonctions de président. J'avais remarqué, merci, j'ai fêté mon anniversaire le 28 mars, mais j'ai encore 3 ans avant de régler ce problème. Donc ce n'est pas à l'ordre du jour. Par contre, il faut que vous sachiez qu'il existe un conseil de famille qui est très attaché à la dimension familiale et à la vision de long terme de notre groupe. Et il faut que mon départ soit un non-événement. Voilà. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais mon souhait est de laisser, mon ambition est de laisser un groupe en bonne santé. Donc, évidemment, dire ça aujourd'hui, ça peut paraître un peu fou. En tout cas, je n'envisage pas, si c'était le sens de la question, de demander un report de la limite d'âge du président. Autre question qui m'était posée, c'est que la loi Pacte permet de baisser à 80, je ne sais plus très bien, retraite des cotes de 95 à 90%. Alors, il paraît que le journal Investir a placé notre société sur la liste des sociétés qui seraient en mesure ou en position de solliciter un retrait de la cote. La réponse est clairement non. parce que aujourd'hui, nos fonds propres sont affectés à tout à fait autre chose que cela. Nos fonds propres vont être affectés, que ce soit bien clair, au développement commercial et marketing de nos maisons. D'abord, enfin, dans un premier temps, à passer cette crise. Hein, ça, c'est la première chose. Il faut déjà, avant de faire des plans sur la comète, la première condition, c'est quand même de survivre. Et puis ensuite, eh bien, nous investirons dans nos maisons plutôt que de songer à un retrait de la cote. Voilà. Ça n'est donc pas d'actualité. Je crois que voilà les autres questions. Il me semble que j'ai répondu pendant mon discours. Donc je vais passer directement maintenant la parole à M. Roulot-Dugage pour qu'il gère la question des votes des résolutions. Si vous voulez bien, M. Roulot-Dugage, vous m'entendez?
Oui, très bien.
Merci.
Donc, comme à l'accoutumée, vous m'entendez? Oui. Comme à l'accoutumée, nous en venons à la partie évidemment la plus amusante, en fait, qui est toi-même aussi la raison d'être de l'Assemblée générale, le vote des résolutions. Je vous rappelle que le quorum est largement requis, est largement atteint, pardon, et je rappelle également que l'avis préalable de réunion à l'Assemblée générale qui a été mis le 25 mars restitue très précisément l'ensemble des résolutions que nous allons évoquer maintenant, mais que l'avis de convocation à l'Assemblée qui a été émis le 10 avril tient compte de l'information qu'a évoquée précédemment Bruno Paillard relative au conseil d'administration du 1er avril et qui a modifié la position du conseil sur quelques résolutions. Alors, s'agissant de ces résolutions, nous avons rapidement 8 résolutions à voir dans la partie ordinaire et 4 résolutions dites de partie extraordinaire. La première résolution porte sur l'approbation des comptes annuels de la société dans son BCC et il est demandé, donc la société holding dans son BCC, et il est demandé à l'Assemblée générale le vote de ces résolutions, donc sur l'approbation de ces comptes et le fait de donner quitus aux administrateurs. Voilà. Alors, cette première résolution, compte tenu des voix qui ont été exprimées par correspondance, et des voix qui sont exprimées actuellement, notamment en ce qui concerne le président, j'entends que cette première résolution est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Oui.
Concernant la deuxième résolution, il s'agit de l'approbation des comptes annuels consolidés du groupe qui font état d'un résultat net de l'exercice de 10 110 850 €. Cette résolution est adoptée par votre Assemblée générale à l'unanimité. La troisième résolution porte sur l'affectation du résultat et le rappel des dividendes qui ont été distribués en 2016, 2017 et 2018. Bruno Paillard l'a évoqué, 35 centimes. Je vous dois cette précision pour des raisons juridiques. 35 centimes en 2016, 50 centimes en 2017, 50 centimes au titre de l'exercice 2018. Cette année, la totalité du résultat est affectée au compte autres réserves, qui s'élèvera ainsi à 92 395 360 euros. Cette résolution est adoptée à l'unanimité, les abstentions qui ont été exprimées n'étant pas prises en compte dans le calcul de la majorité.
Bon.
La quatrième résolution porte sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, qui a été évoqué par M. Genin précédemment, pour les conventions spéciales. Cette résolution est adoptée à l'unanimité. La cinquième résolution porte sur la fixation de ce que l'on appelait précédemment les jetons de présence, que l'on appelle maintenant la rémunération allouée aux membres du conseil d'administration au titre de l'exercice en cours au niveau précédent de 100 000 euros. Cette résolution est adoptée à l'unanimité. La sixième résolution porte sur le renouvellement du mandat d'administrateur de Mme Evelyne Roquebrezel pour une durée de 6 ans. Et cette sixième résolution est adoptée à une très large majorité de 99,92%. La septième résolution porte le renouvellement du mandat d'administrateur de la société Fiag Holding, représentée par M. Gédouin, pour une durée de 6 ans. Compte tenu des votes qui ont été enregistrés, cette septième résolution est rejetée à hauteur de 93,62%. La huitième résolution porte sur l'autorisation, c'est une délégation de pouvoir, l'autorisation donnée au conseil d'administration à l'effet de faire racheter par la société ses propres titres. En fait, très régulièrement, nous faisons adopter cette résolution qui est le cadre juridique dans lequel s'inscrit notre contrat de liquidité. Et cette huitième résolution est adoptée à l'unanimité. La neuvième résolution est également une autorisation donnée au conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par l'annulation éventuelle d'actions détenues en propre par la société. Disponibilité juridique, cette neuvième résolution est adoptée à l'unanimité. Alors, pour nous, nous poursuivons encore trois résolutions dans la partie extraordinaire de cette Assemblée générale, qui sont trois résolutions de moindre importance, on va dire, qui portent sur des modifications de l'article 12 pour la 10e résolution, de l'article 13 pour la 11e résolution, et de l'article 15 pour la 12e résolution, des statuts. Ces résolutions portent sur des modifications qui constituent en réalité des mises en conformité avec les lois qui ont été votées récemment, l'une en juillet 2019, et qui porte sur l'actualisation du droit des sociétés, et l'autre, qui est la loi dite Pacte, du 22 mai 2019. Donc la dixième résolution porte sur la modification de l'article 12. Cette résolution est adoptée à l'unanimité. La onzième résolution porte sur la modification de l'article 13 des statuts. Elle est adoptée à l'unanimité. Et enfin, la douzième résolution porte sur la modification de la rédaction de l'article 15 des statuts, est adoptée également à l'unanimité. Enfin, la treizième résolution constitue tout simplement les pouvoirs pour l'accomplissement des formalités et est adoptée à l'unanimité. Voilà,
merci.
C'est ce que nous allons dire concernant le vote des résolutions.
Merci, Monsieur le Secrétaire Général. Je crois que nous sommes au terme maintenant de notre assemblée. Je voudrais d'abord vous féliciter, remercier tout le monde parce que nous avons tenu dans le timing. Il est précisément 11h30 et donc je dois procéder à la clôture de l'assemblée. Je regrette beaucoup, encore une fois, que nous ne puissions pas échanger autour d'un verre comme d'habitude parce que je sais que c'est toujours beaucoup apprécié. Et puis, ça aurait permis à chacun cette année de voir un petit peu les nouvelles équipes. Vous savez que nous sommes dans un processus qui rejoint un petit peu d'ailleurs la question concernant mon départ en retraite, bien sûr, mais enfin, ce n'est pas seulement le mien, il y a aussi celui d'Evelyne Boisel qui a longtemps présidé la Maison Boisel, ou Philippe Béjot qui a présidé la Maison Lançon et Burtin. Eh bien, il faut. Et Chanoine d'ailleurs. Qui était peut-être trop pour un seul homme, mais puisque je vois que ceux qui sont maintenant en charge ont besoin de plus que 24 heures par jour pour canaliser leur enthousiasme. Mais tout cela est formidable, et donc ça aurait été très bien, évidemment, que chacun puisse échanger. Voilà, et bien écoutez, c'est comme ça, c'est dommage. Merci d'avoir répondu présent à tous, et puis s'il y a des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un mail, je tâcherai de répondre, nous sommes toujours là, voilà. Merci, mesdames, messieurs. Au revoir.